de loup. L'actualité sociale à la une avec ces discussions entre la FRAP et le gouvernement qui se sont poursuivies ce matin. On va aussi au CESEC pour parler d'une réforme qui fait débat avant de revenir sur une célèbre photo de sport. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On va à la présidence où la rencontre avec la FRAP semble sur le point de se terminer de façon plus constructive qu'hier.
Oui, la FRAP qui a déposé en début de semaine un préavis de grève qui court jusqu'au 14. Eh bien, il y avait déjà eu des discussions mardi, d'autres mercredi, puis deux conférences de presse interposées hier. Et ce matin, les discussions entre les deux parties ont repris à 7h. Elles semblent sur le point de se terminer. Caroline Perdry, vous êtes sur place.
Oui, Valdemar, et ça n'est toujours pas fini. Ces discussions, elles ont commencé environ aux alentours de 7h30 ce matin, en présence non seulement de Moïta et Brotherson, mais des ministres de l'Éducation, de l'Économie et des Finances, de la Santé, ainsi que de l'équipement. Le président du pays propose de mettre par écrit une augmentation comprise entre 10 et 20 points pour le premier échelon de chaque catégorie. Le chiffre exact sera arrêté le 29 janvier en Conseil des ministres, le tout dans la limite d'une enveloppe qui ne dépassera pas 250 millions. Pour les autres catégories et les autres échelons, ce sera plus tard, en mars-avril, selon un barème dégressif, une fois les comptes administratifs arrêtés. Le pays est également prêt à s'engager à finaliser la réforme du cadre d'emploi, c'est-à-dire la réduction du nombre d'échelons de chaque catégorie, avant la fin du premier trimestre 2026. Les syndicalistes, à l'issue d'une longue pause de plus d'une heure, sont revenus à la table des négociations, mais toujours pas d'accord avec le pays et très méfiants sur les calculs du coût total de la mesure. Elles devront être interrompues pendant quelque temps, reprendront sans doute plus tard dans l'après-midi et peut-être même demain, avant le départ du président pour Paris.
Merci Caroline Perdry en direct donc de la présidence. On vous tient bien évidemment au courant des avancées des discussions sur notre site radio1.pf.
Le CESEC a rendu hier un avis défavorable du projet de loi du pays sur la réforme du RNS.
Les reproches adressés au texte sont nombreux, mais c'est l'élargissement confiscatoire et sans concertation de l'assiette de cotisation du régime à certains dividendes et loyers qui est le plus fermement dénoncé par les conseillers. Pour le CESEC, l'exécutif devrait d'abord s'attaquer au travail au noir et aux faux patentés plutôt qu'à ceux qui sont dans la légalité. Jean-François Benhamza est représentant du syndicat et des industriels au sein du Collège des entrepreneurs.
On est face à une réalité de terrain qui est claire. Il y a une catégorie de la population qui paye tout, qui déclare tout, qui paye sans cesse. Et c'est à eux qu'on va faire les poches, pendant qu'on laisse les gens qui sont dans l'illégalité continuer à rien payer. Le gouvernement ne fait rien pour aller contrôler les gens du travail noir. Ne fait rien pour s'occuper des salariés patentés. On a quand même fait une auto-saisine avec 32 préconisations. Au jour d'aujourd'hui, 6 mois après, il n'y a rien qui se fait. Et on va faire les poches de ceux qui jouent le jeu.
En revanche, pour le délégué interministériel à la PSG, Pierre Frébeau, qui a beaucoup travaillé sur le texte, c'est le CESEC qui fait fausse route en protégeant les rentiers et gros investisseurs, sous couvert de défense, dit-il, des petits patentés.
On utilise la situation des petits patentés, entre guillemets, pour défendre une position de ceux qui ont fait des placements et qui tirent des revenus, et qui voudraient échapper donc au regroupement de leurs revenus pour la déclaration au titre de la protection sociale. On n'interdit pas aux gens de se constituer un patron. Un complément de revenus, au contraire, parce qu'on prévoit des seuils d'exonération qui sont, me semble-t-il, importants. Mais si on continue comme ça, ça veut tout simplement dire qu'on soutient encore la spéculation.
Le débat est donc loin d'être terminé. Le texte doit être renvoyé au gouvernement qui choisira ou non de mener de nouvelles discussions et de l'amender. S'il était transmis en l'état vers Tarahoy, l'exécutif aurait probablement beaucoup de travail d'explication et d'argumentation à faire auprès de sa majorité pour le faire voter. Le patronat mené par la CPME maintient sa menace de mobilisation contre cette réforme.
Méfiance pour les conducteurs, certains airbags sont défectueux.
Une vingtaine de constructeurs automobiles ont lancé des rappels concernant certaines citadines, berlines, SUV ou pick-up construits avant 2019 et équipé donc d'airbags en mauvais état. Des airbags dont le déclenchement intempestif peut entraîner des projections de fragments métalliques et donc causer des accidents graves, voire mortels. Un phénomène qui touche particulièrement les régions humides. Sur les 15 décès recensés par nos confrères de Radio France, 14 ont eu lieu en Outre-mer. Le Haut Commissariat a donc lancé une campagne d'information. Il invite les propriétaires à vérifier si leur véhicule est concerné et à se rapprocher de leur concessionnaire pour une réparation gratuite. Les marques concernées sont Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Cupra, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jeep, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota et Volkswagen. Vous pouvez retrouver les liens des sites d'information de rappel sur radio1.pf.
Les forces armées ont assuré plusieurs évasanes ces derniers jours.
Oui, d'après le Haut Commissariat, 3 évasanes ont récemment été effectuées par l'avion CASA de l'armée de l'air. Le 5 janvier d'abord pour évacuer un nourrisson prématuré en couveuse à Raiatea. Le lendemain ensuite pour une prise en charge médicale urgente à Puka Puka pour un homme, ce qui a nécessité le déploiement du CASA mais aussi du Dauphin. Et enfin le 7 janvier, c'est une enfant de 3 ans, sa maman et un homme de 30 ans qui ont été évacués pour assistance médicale à Pukarua.
Un mot de sport pour terminer, Valdemar, avec la photo iconique de Gabriel Medina au JO qui refait parler d'elle.
Oui, souvenez-vous de ce cliché signé Jérôme Brouillet qui avait capturé le surfeur brésilien en lévitation, le doigt levé au ciel et sa planche parfaitement verticale au sortir d'un tube pendant les épreuves olympiques de Taupo. Eh bien, cette photo vient de permettre à son auteur de remporter un prix très prestigieux, le premier prix des World Sport Photography Awards, célèbre concours pour les photographes de sport. Jérôme Brouillet a appris la nouvelle hier par mail. On écoute sa réaction.
C'est difficile d'analyser quand on fait des photos qu'on a une photo qui mérite de gagner quelque chose. Je trouverais ça un petit peu prétentieux, mais c'est vrai que cette photo elle a quand même un peu marqué les esprits, et je me suis dit ok, elle a une chance. Et quand je vois les photos chaque année qui passent d'autres photographes, à chaque fois je suis époustouflé. Mais j'ai tenté ma chance cette année avec cette photo de Gabriel Medina et je suis très content d'avoir gagné.
Voilà, Jérôme Brouillet qui remporte donc ce prix, le premier de toute sa carrière. Le photographe local est encore en lice pour d'autres récompenses. Les réponses sont attendues dans les prochaines semaines. Le cliché immortalisant Gabriel Medina est à redécouvrir sur l'Instagram du photographe Jérôme Brouillet Photographie. Vous ne pouvez pas le manquer, il a été liké près d'un million de fois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité locale, c'est le flash de la rédaction à 16h.
Merci beaucoup Valdemar pour ce journal. On passe à la météo maintenant sur Radio.